CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien écoutez, on avait dit qu'on parlerait éventuellement du public enfant.
Ah oui, non,
on n'en avait pas parlé depuis longtemps.
Oui.
Et puis voilà, j'ai rencontré une maman un peu inquiète là il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit que j'allais parler de la néophobie alimentaire.
Néophobie,
peur. Peur du nouveau, donc dans l'alimentation.
Peur du nouvel aliment.
Exactement, c'est exactement ça. Ou bien que tout d'un coup, il refuse de manger un aliment qu'il aimait quelques semaines ou quelques jours auparavant. Mmh. C'est la peur du nouveau, d'accord. Alors c'est vrai que c'est très énervant, toutes les mamans ou papas qui nous écoutent, qui ont des enfants et qui ont un enfant qui ne veut pas manger à table.
Sauf des pâtes et du riz.
Voilà, sauf des pâtes et du riz. Exactement, mais là vous avez mis le doigt sur quelque chose qui peut expliquer. Parce que effectivement, cette période où l'enfant refuse les aliments nouveaux, c'est quelque chose de tout tout à fait normal. Et ce que je veux dire là, c'est que parents, ne vous angoissez pas parce qu'il ne s'agit pas d'un trouble du comportement alimentaire. Si on est vraiment inquiet, ce qu'on peut faire, dans tous les cas d'ailleurs, c'est tracer les courbes de croissance qui sont sur les carnets de santé et surveiller. Mais en tous les cas, le fait à un moment donné de ne plus vouloir manger les aliments nouveaux, c'est quelque chose de normal.
Et c'est le bras de fer dans les familles.
Et c'est, ça peut devenir effectivement le bras de fer. Alors, apogée de cette période un peu moins rigolote, de 2 ans jusqu'à 5, 6, 7, parfois 8 ans même. Alors, pourquoi tout simplement, parce que premièrement, vers 2 ans, c'est la phase du non. Vous savez bien, voilà, l'enfant dit non, et tout d'un coup, il s'affirme, et c'est comme le super-héros, il va se découvrir le super-pouvoir de refuser les choses. Je sais dire non.
Oui.
Voilà, donc et ben, ça englobe aussi l'alimentation, d'accord? Ça peut être aussi une recherche de sécurité, parce que c'est une période où on va le changer de... Enfin, il va passer de la nounou à l'école, par exemple, etc. Et donc, d'avoir des aliments, comme vous disiez, les pâtes, le riz, etc., c'est des choses qu'il connaît, donc ça au moins, pouf, c'est quelque chose de stable. Donc ça a quelque chose de rassurant.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
Delphine Henoquet, naturopathe au magasin Au Bio, espace géré par Ingrid et Valérie, situé avenue de Toulouse, et pif paf pouf, aujourd'hui, tu me l'as glissé dans le creux de l'oreille, les intolérances alimentaires. Les, c'est pas l'intolérance alimentaire, le gluten quoi, on va parler de gluten. Non,
Non, déjà, il faut essayer de définir ensemble qu'est-ce que c'est que les intolérances alimentaires déjà.
Oui.
Est-ce que c'est bien clair dans notre petite tête? Alors, on devrait plutôt parler d'hypersensibilité à un aliment, parce que l'intolérance alimentaire, souvent, ça fait penser à l'allergie. L'hypersensibilité, c'est une autre forme d'allergie, mais c'est pas les mêmes réactions immunitaires qui est en jeu. Donc on peut être hypersensible à un aliment et au contact de cet aliment pendant des années sans se rendre compte que c'est vraiment cet aliment qui génère chez nous en fait des troubles chroniques.
On peut en manger, mais ça provoque des désagréments.
Oui, des désagréments qui sont pas forcément identifiés. C'est en ça que la chronique, je pense, peut apporter un éclairage sur parfois le mal-être de certaines personnes, qui n'est pas forcément mis en lien avec ce qu'ils mettent dans leur assiette. Le problème de l'hypersensibilité à des aliments, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va avoir en fait des macromolécules d'aliments en fait qui vont passer la barrière intestinale parce qu'elle est poreuse, en fait. Elle est trop poreuse. Elle est hyper perméable. Et donc, ces macromolécules vont se retrouver dans le sang. Ça va faire des agrégats et, en fait, provoquer une réaction du système immunitaire. Là, il se dit, ça n'a rien à faire là. Donc, il va provoquer tout un tas de troubles dans lesquels on va facilement les gens vont se retrouver. Alors, faut savoir quand est-ce que ça se manifeste. Alors, la différence avec l'allergie, t'es allergique aux fraises. T'avales une fraise, tu le sais, t'es allergique dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent. Voilà, une réaction hyper violente. Là, la manifestation, elle peut être entre 3 heures et 3 jours après l'ingestion. Donc c'est déjà moins facile à identifier.
Ça complique.
Ça complique. Oh, non.
toutes les chroniques de Delphine sur le cfmradio.fr, rubrique Bien-être au bio, nature et vie.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she's trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. I'm so defeated, I just want this shit to end. So I walk into the club like everybody hates me. In my head, I can't even check the time without facing regret. Why do I still have to mean everything I ever said? And I'm not trying to be like poor me, I made it. I'm just trying to stay normal now that they know what my name is. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends. Yeah, they're the reason that I still am who I am. So I walk into the club like everybody hates me. Everybody hates me. I walk into the club like everybody hates me.
CFM à Villefranche 90.2 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du mag de ce mardi.
Les haut-parleurs. Ce week-end, on se retrouve tous pour la rando parleuse, où on va faire un tour sur le chemin du Malpas. À 14h30, on se retrouve après avoir mangé des galettes au bar. Le chemin du Malpas, c'est le chemin qui part pour aller sur Monteil, qu'on quitte pour venir après par Beauregard, enfin au-dessus de Villefranche, voilà. Laurière aussi, enfin on passe tout ce coin là-bas. Et le soir, alors là, je vais faire un coup de com' pour Chantal, qui s'occupe de l'assaut pour le Libre Champ Bastide, qui organise son karaoké un peu annuel, là, voilà, avec Agathe, ouais, au platine. Un petit karaoké sympa, ça commence à 20h30, ça finira à 22h. C'est toujours rigolo, les karaokés. Avec Chantal, on se marre bien.
Il paraît que t'as des dons, hein, quand même.
Oui, oui, non, mais là, c'est pas moi.
Tu distingues particulièrement.
Là, c'est pas moi, c'est Agathe qui s'y colle. Ouais, bon courage, Agathe. Et je voulais parler de dimanche. Entre dimanche soir, exceptionnellement, on est ouvert. C'est pas souvent qu'on est ouvert le dimanche. Enfin, on l'était là pour un concert au mois d'avril. Enfin, on était ouvert dimanche pour Massico. Mais là, on est de nouveau ouvert le dimanche 29 avril à partir de 19h pour une soirée projection. C'est la présentation de la fontaine encyclopédique du Maquis. Voilà, qui est une espèce de centre de documentation anti-autoritaire en milieu paysan. C'est une bibliothèque, c'est une cinémathèque. Et ils viennent présenter leur projet. Et aussi autour d'un film qui s'appelle L'Éphèvre, qui est un film en argentique, qui est sur pellicule 16 mm, qui sera projeté dans la pièce du fond. C'est un doc de 45 minutes sur une famille de paysans du Haut-Doubs qui, en 1968, se trouve confrontée au démantèlement agro-industriel du monde. Voilà, c'est un petit documentaire militant, mais c'est surtout intéressant de rencontrer un petit peu ce collectif qui s'appelle la Fontaine encyclopédique du Maquis. Voilà.
Ça peut rappeler une certaine actualité, peut-être même.
Ouais, 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 ça rejoint une certaine actualité. Voilà. D'ailleurs, on salue tous les copains en vadrouille, que ce soit vers Notre-Dame-des-Landes ou les potes de la SNCF aussi, ou à Bure. Bon, ouais. bon courage, les gars. C'est pour ça que je suis un peu tout seul, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une certaine effervescence en ce moment.
Avec l'association pour la promotion de l'agriculture biologique en Aveyron.
Quoi de bio en Aveyron? On a eu l'assemblée générale donc qui a eu lieu dernièrement. Donc suite à ça, il y a le nouveau bureau et de nouveaux administrateurs qui sont venus s'impliquer dans l'association. Bienvenue donc à Yannick Delclos, Pierre Bell, Laure Fressinet, Roland Carrier et Sylvain Fraisse au sein de la PABA. Voilà, bienvenue à vous.
Comment ça s'organise la PABA? On peut peut-être faire un petit rappel de principe. Il y a un collège consommateur.
Voilà, il y a un collège consommateur. Il y a un organisme technique également. Donc là, c'est le, si je dis, consommation, logement et cadre de vie. Voilà, CLCL, représenté par Pierre Bell. Avant, c'était les MAP du Ruthénois. Voilà. Ensuite, il y a donc le collège producteur. Et après, oui, donc le collège consommateur, voilà. Donc après, bon, majorité, on essaye majoritairement d'être représenté par des producteurs, mais la bio, c'est pas que les producteurs, c'est également les consommateurs et les organismes techniques d'accompagnement et différentes structures. Donc on essaye d'être ouvert au plus grand public possible.
On le dit tous les mois, la bio, ça bouge, ça s'organise aussi très concrètement avec les collectivités de plus en plus, parce que il y a des lois, des ordonnances, et donc les pouvoirs publics s'en inquiètent un petit peu et se rapprochent de plus en plus, notamment de la PABA qui est une référence en Aveyron.
En Aveyron, oui, tout à fait. Alors notamment au niveau des nouveaux liens, on essaye de monter quelque chose avec l'ADR, notamment. Voilà, pour l'accompagnement des porteurs de projets. Voilà, donc on réfléchit à peut-être un accueil conjoint, des porteurs de projets.
L'ADR, ça serait peut-être bien d'expliquer pour les auditeurs qui sont en dehors du circuit.
Alors, c'est la promotion de la vie, en fait, au niveau rural, c'est le développement de l'activité en milieu rural.
Avec une vraie proximité avec la Confédération paysanne, savoir.
Voilà, c'est une émergence de la Confédération paysanne.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Est-ce qu'on peut dire qu'à Fleur d'Aile, c'est première édition de ce festival, c'est une vitrine de l'association Terre de Femmes.
Je crois que c'est vraiment ça. C'est quand même une vitrine. On avait tout simplement envie, de marquer le coup. Donc on a commencé par créer cette association et puis on s'est dit, pourquoi pas créer quelque chose de plus grand, c'est-à-dire au sein de l'association, proposer carrément un week-end ressourçant où on aura le temps de se poser dans un cadre idyllique, d'avoir du monde pour répondre à nos questions, pouvoir se retrouver, tisser des liens, honorer, célébrer, partager. Et on s'est dit, on lance l'aventure. Donc première édition cette année. Il y a un engouement énorme, vraiment, autour de ce festival. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a une demande, mais incroyable. Alors nous, on le voit régulièrement à longueur de journée à travers les clientes, les personnes qu'on reçoit lors de nos soins. Il y a vraiment, vraiment une demande de se réunir, de comprendre, de partager et de tisser des liens, vraiment.
15, 20, il y a pas mal d'intervenantes, essentiellement des femmes d'ailleurs. Alors, c'est quand même très présent.
Oui, c'est vrai. On a quand même essentiellement, pour le coup, donc deux femmes qui sont intervenantes. On aura même que des femmes intervenantes. Du coup, elles sont plusieurs. On va accueillir la magnifique Yael Catrinet qui est elle, par exemple, de Nîmes et qui organise pour cette année 5e édition du salon autour du féminin à Nîmes, qui organise aussi tous les ans un festival de la naissance. Ce sera la 3e édition, en automne prochain, pardon. Elle est l'auteur de plusieurs livres justement sur le féminin. Elle fait de très très belles choses. On aura par exemple Anne-Rose Lovink qui fait elle de la danse-thérapie, danse énergétique, du coup qui est sur Toulouse.
La biodanza.
Alors, elle
ah non, c'est pas elle.
Pas biodanza. On a des intervenantes en biodanza. Donc, on aura effectivement deux intervenantes pour un atelier. Donc, en plus, super parce que biodanza et photographie. Donc, un autre regard qu'on pose sur soi dans le mouvement, dans la fluidité. Donc avec Laurence David et Elisabeth Lujon. Voilà, on aura aussi un atelier de sexualité, parce qu'il faut en parler aussi également, hein, c'est un sujet qui revient...
N'ayons pas peur.
Voilà, n'ayons pas peur d'en parler, qui revient. Voilà, on aura aussi un bel atelier, en fait, autour de tout un rituel de ménopause, du coup, pour célébrer et accueillir la ménopause des femmes, avec, du coup, Frédéric D'Amato, elle, qui est aussi intervenante du... Elle habite dans le Sud-Ouest. Donc voilà, plein de choses, une projection de film, La Loba, par exemple, de Catherine Béchard, avec une table ronde autour de plein d'interrogations. Et la principale, est-ce qu'on peut encore accoucher aujourd'hui naturellement dans un monde un peu artificiel? Intervenante, voilà, sur l'allaitement. Émilie Leroy aussi, donc, qui est de la région, qui est de Villeneuve, infirmière de métier, qui est donc conseillère en allaitement et en portage en écharpe. Donc, il viendra nous proposer une balade en écharpe, hein, le dimanche. Donc, ouvert, bien sûr, aux familles. Ne pas hésiter à venir avec les papas, avec les enfants, pour cette balade, qui est conseillère également en allaitement et qui nous fera une belle conférence, voilà, avec plein de pistes de réflexion. Est-ce qu'on peut allaiter lorsqu'on accouche en césarienne? Est-ce qu'on peut faire un co-allaitement lorsqu'on a des jumeaux ou qu'on a deux enfants, un enfant qui allait encore plus grand et un bébé? Donc voilà, plein de pistes de réflexion. Donc un très joli programme varié, du coup, autour du féminin et de la naissance.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays, CFM.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
On ne finit pas les phrases, hein.
Je dis et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouergue.
On commence aujourd'hui avec l'info de la semaine.
L'info de la semaine, c'est évidemment ce violent orage qui s'est abattu sur le secteur de Toulonjac et Saint-Rémy et qui a créé cette véritable lame d'eau qui a ravagé le cœur de ces deux villages. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil à la page spéciale que nous consacrons à cet événement. Les photos sont assez éloquentes. À Saint-Rémy, par exemple, des voitures ont été emportées par une sorte de vague de mètres de haut, décrite par les témoins comme quelque chose qui est arrivé avec une brutalité inouïe et qui a donc catapulté les voitures telles une boule dans un jeu de quilles et les a amenées pour certaines dans le lit de la rivière, le maire d'Ory qui passe à Saint-Rémy. Du côté de Toulonjac, c'est carrément un torrent qui s'est déversé devant la mairie et qui a inondé des habitations qui se trouvent vraiment dans le centre du village. Pour l'anecdote, un jeune couple venait de faire couler l'après-midi même la dalle de fondation de sa maison. Tout a été emporté par les flots. Voilà, donc de gros dégâts. On songe quand même qu'on a évité quand même une grande partie des conséquences qu'aurait pu avoir cet épisode météorologique exceptionnel en voyant le relais de Farou qui a quand même été relativement épargné par le phénomène puisque l'eau est bien montée mais a atteint simplement le niveau du parking. Il y a eu une voiture qui a été inondée, les caves aussi de l'établissement, mais le restaurant et l'hôtel n'ont pas été touchés, ce qui prouve bien que les travaux qui ont été réalisés par le conseil départemental sur le pont de Farou étaient amplement nécessaires et qu'aujourd'hui, on récolte le fruit en termes de sécurité de l'investissement qui a été réalisé sur ce secteur. Voilà, en tout cas, un épisode qui restera dans les annales, parce que de mémoire de villageois, on n'avait jamais vu un épisode aussi brutal qui a duré à peine une heure, une heure de précipitation. Mais
c'était un couloir en plus.
Voilà, c'est vraiment sur le secteur de Sénac, Toulonjac, Saint-Rémy, et un petit peu à l'entrée de Villefranche, là, sur la route de Toulonjac. Et sinon, après, c'est un épisode qui est passé relativement inaperçu.
Allez, vous venez de nous rejoindre. Reportage consacré à Fanny Grèce, architecte libérale située au 5 boulevard Haute-Guyenne, agence d'architecture. On est au rez-de-chaussée avec une maquette de Villefranche-de-Rouergue. C'est un projet d'étude, ce que j'ai cru comprendre. Peut-être qu'on peut se déplacer, visiter l'étage qui est l'espace de travail. Je vous suis. De quoi a besoin un architecte pour travailler ?
Je dirais aujourd'hui d'un bureau, d'un ordinateur et d'une imprimante. Et d'un réseau informatique, voilà. Après, moi j'ai encore gardé ma table à dessin parce que c'est plus sentimental que vraiment d'actualité. Mais voilà, et puis un petit peu de lumière, c'est quand même plus agréable que d'être dans le noir.
Oui, vous avez concrètement travaillé à l'esthétique aussi de votre espace de travail, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, donc j'avais un petit local de 35 mètres carrés. Je passe un certain temps au travail. C'est vraiment une passion. Donc, j'avais envie que voilà, l'espace où je travaille reflète un petit peu mon travail. Mmh. Et puis, voilà, que ça puisse être maintenant plus agréable. Et puis, pour moi, c'était important de rester dans la Bastide. Mmh. C'est vrai que c'est un lieu que je pratique depuis que je suis petite. Mes grands-parents étaient commerçants en centre-ville, donc voilà, il y a un attachement vraiment important. Et je trouvais que voilà, le fait de participer à cette rénovation du centre, c'était quelque chose d'important pour moi.
Aujourd'hui, j'ai la sensation que les entrepreneurs villefranchois vous font confiance. Vous travaillez pour des particuliers, pour des entreprises, des hôtels, des restaurants.
Aujourd'hui, je travaille sur des projets très variés et c'est ça qui m'intéresse aussi. Je travaille à la fois sur des tout petits projets pour des particuliers. Je parlais tout à l'heure d'abri piscine, voilà, des petites choses comme ça. Ça peut être un petit aménagement de terrasse, un petit garage, enfin voilà, vraiment des petites choses. C'est aussi des projets beaucoup plus importants, voilà, du bâtiment industriel, voilà. Et après, j'ai une clientèle également effectivement de boutiques et de commerçants, où là, il y a une valeur ajoutée sur les aménagements intérieurs, un petit peu de design des fois, etc. Pour donner un pourcentage, je dirais que c'est, on va dire 40% particuliers, 60% professionnels.
Ah, c'est la fin.
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement, ni fin, et c'est parce que je voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le mag. Tous les jours, 12h30. La vie du Villefranchois.